Eh ben bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Donc, nous sommes le mercredi 10 février. Et Georges Pigna et moi-même, Gilles Dessina, sommes heureux de vous accueillir sur la plus rebelle des radios. Et aujourd'hui, comme la semaine dernière, nous luttons de manière ouvrière avec nos invités. Donc, Nadia Bouhami.
Bonjour.
Bonjour. Et Tristan Tessier.
Bonjour.
Donc, qui était probablement dans la manifestation de jeudi dernier.
Tout à fait.
Comment ça s'est passé?
Bah écoutez, voilà, ceux qui étaient présents, en tout cas, c'était pour dire à tous ces capitalistes et à tous ceux qui nous attaquent qu'on était présents, voilà, qu'on a relevé la tête, voilà, qu'on n'accepte pas, voilà, que ces gens-là profitent de la crise pour nous imposer des suppressions de postes, des salaires bas, etc. Donc on était fiers, même s'il n'y avait pas grand monde, il est vrai. Mais n'empêche que ceux qui étaient présents, ils ont relevé la tête, quoi. C'est pour dire non, et on arrête de subir.
Tristan ?
Oui, c'est ça. Vous savez qu'aujourd'hui, les patrons, ils nous mènent une guerre. C'est une guerre de classe que nous mènent les capitalistes. Qu'on voit, c'est des plans de licenciement chez Michelin, chez Total, chez Sanofi, alors que tous ces groupes-là sont quand même milliardaires. Oui, donc c'est une guerre, et cette guerre, nous devons y répondre. On doit relever la tête, car c'est nous, quand même, les travailleurs qui nous ont tout tourné dans cette société-là.
Alors, Sanofi, il faut en parler, parce qu'ils sont sur le point de trouver quelque chose, là. Comme on dit, ils vont se faire des couilles en or, hein.
Moi, je travaille sur le site de Marcy-l'Étoile, donc à Sanofi. On a pu voir dans la presse, ils viennent d'annoncer 12 milliards d'euros de bénéfices. 12 milliards d'euros de bénéfices. Et donc, c'est 4 milliards d'euros qui vont encore aller dans la poche des actionnaires. C'est à peu près le même chiffre de l'année passée. Alors, c'est en hausse en réalité. Par contre, ce qui n'est pas en hausse, c'était les salaires des salariés de Sanofi. Sur la vaccination... Sur la vaccination, ce qu'on peut voir, c'est quand même une prouesse quand même aujourd'hui d'avoir trouvé ce vaccin en 10 mois. C'est une prouesse de la part des chercheurs, des scientifiques. Malheureusement, aujourd'hui, dans cette logique capitaliste, parce que le vaccin, il fait aussi partie de cette logique capitaliste. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, c'est un manque de production. Pfizer, AstraZeneca annoncent et retard le plan de la production, parce que ils ont reçu quand même de l'argent l'Europe, de l'argent de l'État. Vous savez que toutes ces entreprises pharmaceutiques vivent essentiellement des aides publiques, notamment Sanofi. C'est à peu près 1,3 milliard d'euros qu'ils ont reçu en 10 ans. 1,3 milliard d'euros, c'est quand même énorme, en 10 ans, de l'État français, au titre du crédit impôt recherche, aussi du CICE, le fameux crédit impôt compétitivité emploi, hein, c'est ce que la gauche avait mis donc en place avec Hollande. Le plan de relance aussi, les 100 milliards du plan de relance. Et puis au mois de juin, Emmanuel Macron était venu sur le site de Marcy-l'Étoile, où je travaille, et a versé 200 millions d'euros. Mais cet argent, il n'a pas servi à embaucher, parce que quelques temps après, c'était, je crois même pas une semaine après, Sanofi annonçait un plan de licenciement côté des chercheurs. À peu près 1000 emplois de supprimés. 1000 emplois qu'ils ont supprimés alors qu'ils reçoivent les milliards d'euros de l'État. Donc on voit très bien que cet argent, il ne sert pas, à l'emploi, il ne sert pas non plus à l'investissement. Vous savez, Sanofi, et ainsi que les autres grands groupes du Big Pharma, avant de faire un vaccin, ce qu'ils pensent, c'est faire du fric. Et les 100 milliards du plan de relance...
Les hôpitaux, ils n'ont pas vu la couleur de cet argent-là.
Absolument.
Je pense que Nadia, elle peut témoigner de
ça. Bien sûr. Alors dans les hôpitaux, de toute façon, le problème des hôpitaux, il ne date pas du Covid. Hein. Bien sûr, bien avant, tous les gouvernements précédents, Macron... Dernièrement, il a supprimé des lits, il supprime des emplois, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les hôpitaux, comme l'État se désengage, parce que tout le fric, tout l'argent public va justement dans les entreprises du privé, et les grosses en particulier, pour justement préserver leurs profits, entre parenthèses. Et donc, du coup, les hôpitaux, ils s'endettent. Il faut bien que j'essaye d'expliquer, parce que voilà, les hôpitaux, ils s'endettent auprès des banques. Hein ? Donc, après, une fois qu'ils ont fait, des emprunts, il faut bien qu'ils remboursent cet emprunt. Et ça se fait sur le dos de qui ? Ça se fait sur le dos du personnel. Là, dernièrement, en 2019, les hospices civils de Lyon ont fait un bénéfice de 7 millions d'euros. Vous vous rendez compte, un hôpital public qui fait des bénéfices. C'est ça le capitalisme. Voilà, c'est ça. On demande aux hôpitaux d'être rentables. Et en fait, dans cette société-là de capitalistes, de toute façon, tout est une marchandise. Voilà. La santé, les êtres humains, tout est une marchandise. C'est pour ça que moi, je suis communiste révolutionnaire. Je suis communiste révolutionnaire parce qu'il faut que ça soit, justement, que la santé soit au service de tout le monde. Et non pas seul. Voilà, c'est ça. On est un service. Enfin, pas un service public. Parce qu'on ne peut pas être un service public dans un État bourgeois. Ça, c'est pas possible. Mais n'empêche que la santé doit être gratuite et pour tout le monde. C'est pour ça que je suis communiste révolutionnaire. Et moi, ce qui m'agace, c'est que. Je suis en colère, vraiment. Hein, mais enfin, il y a quand même une petite colère. Parce qu'en fait, la santé, les soins financiers. Avant de soigner les patients, on manque de moyens, on manque de personnel. Pendant la première vague. Honnêtement, on a compté que sur nous-mêmes. On a fabriqué des sacs poubelles. Des tabliers avec des sacs poubelles. Et ça, c'est grâce à qui ? Ça, c'est grâce aux agents hospitaliers. Hein, pour transférer les patients ailleurs. Ça, tout a été organisé par les agents hospitaliers. Donc moi, je suis convaincue, et même les patients nous le disent, hein, ils nous le disent vraiment, que on est convaincue que si les hôpitaux étaient gérés par les hospitaliers, ça serait mieux géré. Parce que nous, on n'a pas cette notion du profit. Voilà. On n'a pas cette notion du profit. Nous, on est là pour soigner des patients, des gens, des êtres humains. Et les HTL, encore, ils vont encore déprogrammer. Voilà, c'est ça. En fait, un an après la pandémie, bon, on fait les mêmes choses. Voilà. Et en plus, ça va encore s'aggraver parce que Véran, il a annoncé 900 millions de... Comment dire en moins sur les budgets des hôpitaux pour 2021. Alors, l'État, il trouve l'argent. Il n'y avait pas d'argent magique. Il trouve l'argent... Les 100 milliards d'euros hein, pour sauver les profits des capitalistes. Il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux. Mais il y a quoi de se mettre en colère, réellement. Regardez juste un exemple, un chiffre choc, par exemple. L'augmentation de la fortune des milliardaires français depuis le début de l'année. Il est de 175 milliards d'euros, soit deux fois plus que le budget des hôpitaux. Donc ça prouve bien que l'État est au service des possédants. L'État, il ne faut pas qu'on compte sur nous, il ne faut pas qu'on compte sur lui. Il faut que les travailleurs, quel que soit du public ou du privé, il faut qu'on compte que sur nous-mêmes, sur nos mobilisations. C'est pour ça qu'on est des communistes révolutionnaires.
Gilles, on rappelle le nom et l'organisation de
Donc,
nous.
C'est Lutte Ouvrière, évidemment, vous avez compris. Vous avez compris qu'il ne s'agissait effectivement pas de Les Républiques en marche, de toute façon.
C'est sûr.
Et pourtant, vous êtes en marche, hein, mais pas pour en politique, pas en, dans la partie politique en marche. On est d'accord. Jeudi dernier, vous étiez en marche, mais vraiment en avant. On peut le dire. Voilà. Donc, enfin, voilà.
Cette manifestation la semaine dernière, ça a bien marché. On sentait bien sur le.
Il faut bien qu'on... Voilà. Oui, effectivement. Bon, là, c'est une manif interprofessionnelle public-privé.
Ah oui.
Et voilà. Ouais, voilà, il y avait les deux. Ça veut dire que moi, ce que je retiens de cette manifestation, c'est quoi qui nous unit ? C'est avant d'être du public ou avant d'être du privé, on est d'abord des travailleurs. Des travailleurs attaqués. Depuis les capitalistes, ils profitent de la pandémie pour supprimer des postes, alors qu'ils se gavent. Ils se gavent du travail. C'est grâce aux travailleurs de Sanofi que Sanofi fait des profits et donne de l'argent aux actionnaires. Hein? Et plus cette société, c'est simple, elle fonctionne qu'au profit individuel. Voilà, c'est ça. Profit individuel. Ce qui compte, c'est le profit à tout prix. Regardez, je vais quand même revenir sur cette histoire de vaccin. Mais si l'État était de notre côté, eh ben, il imposerait à Sanofi de fabriquer du vaccin Pfizer. Pourquoi ils le font pas ? Pourquoi ? Parce que le vaccin, il n'est pas bleu, blanc, rouge. C'est ça, pourquoi ils le font pas ? Il y a quand même des morts. Il y a quand même des millions de morts dans le monde. Quand même. Et si l'État était vraiment de notre côté, il imposerait à Sanofi de fabriquer du vaccin Pfizer. Mais il le fait pas. Parce que pourquoi ? Parce que c'est les trusts qui décident. Hein ? Il y en a assez, on entend la Macronie. Hein, les gens qui utilisent ça comme Ruffin ou Mélenchon, ils nous emmènent dans les travers, dans une impasse. Parce qu'en fait, ils ne s'en prennent pas. Là, ils disent que c'est Macron le problème. Le problème, il n'est pas Macron. C'est pas de Macron. Le problème, c'est qui décide ? Qui a les moyens de production dans les mains ? Et justement, en disant ça, eh ben, n'empêche que Macron et Ruffin, ils nous emmènent dans une impasse. En disant que c'est aussi, ils ne dénoncent pas la propriété privée des moyens de production. Vous comprenez ? Ils ne dénoncent pas l'exploitation. Et c'est ça que aussi. Et hein, ils feront quoi de mieux? Et tous ces gouvernements là qui prétendaient défendre les intérêts des travailleurs, et qu'est-ce qu'ils ont fait une fois au pouvoir? Eh ben ils ont fait la même chose. Hollande, il disait quoi? Mon ennemi, c'est la finance. Et il a fait quoi? Il nous a attaqué encore un peu plus. Il a attaqué les travailleurs. C'est pour ça qu'il faut compter que sur nous-mêmes.
Il est vrai que certains partis de gauche, hein, notamment comme la France Insoumise ou comme le PCF, demandent l'intervention de l'État pour, afin de réquisitionner Sanofi, de réquisitionner d'autres grands labos. Mais il est clair qu'on n'a rien à attendre de l'État. Il faut encore croire que l'État pourrait changer de sort. Mais c'est faux. Mais c'est faux de croire à ça. On voit clairement, que l'État est du côté des grands trusts comme Sanofi. Les politiciens, d'ailleurs, qui candidatent, sont trop liés et soumis aux intérêts du grand capital pour être capables de lui imposer quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, ce qu'il va falloir, c'est que ce soit nous, les travailleurs, qui imposons la réquisition des moyens de production. Parce que, enfin, ce qui est fou, c'est que, c'est comme je le disais tout à l'heure, la prouesse des scientifiques, des chercheurs, avoir trouvé, eux, en 10 mois, un vaccin que certains disaient que c'était pas possible. Oui, ils l'ont fait quand même. Mais aujourd'hui, ce qu'il faudrait, ce qu'il y aurait nécessité, c'est une grande mobilisation générale des industriels pour pouvoir mettre en commun les moyens de production. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Parce qu'il y a les brevets, il y a ci et ça. C'est la concurrence entre eux. C'est la concurrence. Et c'est ça qu'il va falloir qu'on lève, le secret des affaires. Ça, il faut qu'on l'impose. Et c'est à nous, les travailleurs, les ouvriers, les ingénieurs, les chercheurs, de imposer le contrôle aussi sur la production. Et ce qu'il va falloir aussi, c'est exproprier les capitalistes.
Donc je vois le gros titre de votre journal, contre le chômage, partage du travail entre tous. Ça peut faire peur à des gens, ça. Ils pourraient dire, alors, s'il y a 1400 euros à partager en deux ou en trois, qu'est-ce qui va me rester, non? Comment cette formule là?
Oui, alors, vous savez, je vais prendre l'exemple, là où je travaille. Nadia le fera aussi sur les hôpitaux parce que c'est à peu près donc pareil. Donc là où je travaille, ils n'embauchent pas. Donc Sanofi, entreprise multimilliardaire, si vous voulez, je peux encore vous répéter les chiffres des bénéfices, hein, 12 milliards de profits. Hein. Avec 12 milliards de profits, ils pourraient largement augmenter x2 les effectifs. x2 les effectifs.
Oui, ils vont les chercher, je crois, non, ils vont pas.
Oui, ils suppriment l'emploi dans la recherche, mais aussi, vous savez, sur le site où je suis, ils voulaient produire le vaccin du Covid-19. Ils ont pris comme prétexte du vaccin du Covid en France pour imposer la dégradation des conditions de travail avec des plans aussi de lead management. Alors, les plans de lead management, c'est quoi le lead management? C'est produire plus avec moins de monde. C'est la réduction des temps morts, comme eux ils disent. Mais avec ça, ils vont supprimer les intérimaires. Moi, je trouve quand même, ce qui est quand même révoltant, c'est qu'il y a quand même 6 millions de chômeurs en France et que des grands groupes comme Sanofi n'embauchent pas. Ce qu'ils vont faire, c'est même plutôt l'inverse. C'est comme vous avez dit, ils vont supprimer des postes dans la recherche, virer des intérimaires. Et pendant ce temps-là, ceux qui vont rester vont travailler plus. Ils vont travailler plus, ils vont s'épuiser. Ils vont s'épuiser car les cadences, elles vont augmenter. Et quand ils seront épuisés, ils seront virés parce qu'ils seront inaptes au poste de travail. Ça, c'était encore la gauche au pouvoir avec la loi El Khomri qui facilite le licenciement des salariés qui sont inaptes. Donc, ils mettent en concurrence les travailleurs les uns contre les autres. Et ce qu'il va falloir, oui, c'est se répartir entre tous le travail avec un salaire égal. Mais pour ça, il faudra prendre sur les profits des grands groupes du CAC 40. Ils ont pas besoin, eux, de plus de dividendes. Par contre, ce qu'il faut pour nous, c'est de l'emploi et des vrais salaires. Ça, c'est ce qui est vital. donc prônant sur le profit des grands groupes.
Là, vous pouvez détailler, je vois dans votre dernier journal un titre, « Vaccin, une pénurie qui sert les trusts pharmaceutiques ». Pour un peu plus d'explications, quoi.
Ben, sur ça, donc, sur la pénurie, donc, ce qu'on voit, c'est que les grands groupes comme Pfizer, comme AstraZeneca, ils n'ont pas augmenté leur moyens de production. Alors, AstraZeneca vante qu'ils pourront faire 3 milliards de doses en 2021.
Mais c'est que des effets d'annonce. Ils n'ont pas investi dans les moyens de production. Alors, ils vont construire une usine en Inde. Mais ça sera dans 3 ans qu'elle sera là. Ils n'ont pas investi dans de nouvelles usines.
Donc aux Indes, ils sont en train de construire une usine de production.
Oui, mais il faut 3 ans. Il faut trois ans afin que l'usine.
Et alors, en attendant, alors.
Le problème, c'est que pour l'instant, ce qu'on voit, c'est la pénurie côté des vaccins. Mais c'est en France. Je crois que plus de la moitié des doses qui sont précommandées sera à 14% de la population. En Afrique, ils ne verront pas la couleur de ce vaccin. Ils ne verront rien du tout.
Ouais. Et on rappelle qu'il faut 2 doses par personne.
Oui, il faut 2 doses par personne. Et que même ce qu'on voit, c'est que Pfizer, ils vous vendent même une 6e dose qui ne sert pas, qui part à la poubelle. C'est ça, ce que le gâchis, c'est quand même révoltant de voir ça.
Et une petite anecdote, justement, en faisant les vaccins à l'hôpital, apparemment, les soignants, ils ont vu qu'il y avait une sixième goutte. Et ce qu'ils ont fait, Pfizer, c'est que c'est vraiment de la pourriture, excusez-moi du terme, parce que en fait ils se sont aperçus évidemment de la 6e goutte et donc en fait ils ont exigé de l'État qu'il verse justement qu'il paye la 6e goutte en question, pour vous dire qu'en quoi cette société elle est basée sur le profit individuel et pas pour soigner des millions de gens, pas pour c'est ça et cette société elle est pourrissante. Moi par contre j'aimerais bien revenir sur le partage du travail entre tous dans les hôpitaux, parce que c'est vrai, ça se fait dans le privé, mais dans le public aussi ça se fait, honnêtement ça se fait, hein, c'est pas compliqué. Les HCL, faut bien comprendre les HCL quand même, c'est un employeur comme les autres, voilà, ils suppriment comme les autres, ils précarisent comme les autres. Voilà, il met de la pression comme les autres. Donc, il y a, comment dire, au labo, là où je travaille au labo avant d'arriver au brancardage, c'est pas compliqué. Comme ils n'embauchaient plus, donc un collègue faisait le boulot de 3. Et oui, ça existe aussi, le boulot de 3. Alors, vous vous rendez compte, là, la pression, la tension, la marge d'erreur, vous rencontrez dans cette société débile, il y a 6 millions de gens qui veulent bosser. Et nous, on fait un boulot pour 3 personnes, hein? Est-ce que ça, c'est normal? Et là, je suis au STIP aujourd'hui, au brancardage, et c'est pareil, c'est le lean management. Voilà, je brancarde des patients, et ben voilà, on nous bombarde de... Voilà, il n'y a plus de temps mort, parce que les temps morts, ça ne sert à rien, d'après les... Ça ne va pas trop comme les autres, les HCL, hein? Ils enlèvent les temps morts. Donc du coup, à la fin de la journée, et ben vous faites 17 kilomètres... À la fin de la journée, vous avez transporté des patients. Alors que former un brancardier, moi j'étais formée en 2 jours. En 2 jours, vous pouvez former un brancardier. Hein. Il n'y a aucun problème. Donc voilà. Donc je vous dis encore une fois, si c'était géré par nous, les hospitaliers, hein, pendant la pandémie, là, on pourrait soulager le personnel soignant. Il y avait besoin des brancardiers, il n'y avait que 2 jours à former. Donc c'était possible. Mais encore une fois, voilà, je vous dis encore une fois, les HCL, comme ils sont endettés, et donc, c'est un employeur comme les autres. Et donc, il supprime des postes. Et il précarise. Vous savez, dans la fonction publique, vous restez 6 ans en CDD. Et vous n'êtes même pas sûr d'être gardé.
Oui, il n'y a pas de contrat. C'est des contrats indéterminés, quoi.
Vous restez contractuel pendant 6 ans. Et après, hop, ils vous virent. Ou soit ils vous gardent. Donc ça, c'est de la précarité. Et bien, qu'on impose. Moi, j'ai confiance. Moi, on est des communistes révolutionnaires. Je le répète et je le re-répète. Il faudrait que nous, on a confiance en notre classe sociale. Là, aujourd'hui, effectivement, il y a... Voilà, les gens, ils se bagarrent. Il y a une petite colère, mais vraiment minime. Mais
Les capitalistes qui continuent justement à licencier, qui continuent à... Il y aura une révolte tôt ou tard. Et nous, on a confiance en cette révolte. Nous, on a confiance en notre classe sociale. Par contre, il faut qu'on se prépare. Voilà, il faut qu'on se prépare dans nos têtes. De toute façon, là, ils nous disent, il n'y aura pas le jour d'avant, le jour d'après. Ça va être pire. Ça va être pire parce que ça va se dégrader. Parce que même, imaginons, on est tous vaccinés, le virus y part, ça continuera. Tant qu'on laissera les moyens de production dans les mains de ces parasites, ça ne changera pas notre sort. Il faut que maintenant, que les travailleurs, ceux qui nous écoutent là actuellement, hein, vos auditeurs, il faut qu'ils commencent à réfléchir comment on pourrait se battre. Parce que sans nous, il n'y a rien qui fonctionne. Sans nous, il n'y a rien qui fonctionne. Donc c'est grâce à nous que la société elle fonctionne. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour défendre nos intérêts de classe sociale, nos intérêts à nous? Nous, on n'a rien à voir avec les patrons. Nous, mon collègue qui bosse, mon camarade qui bosse à Sanofi, il n'a rien à voir avec Sanofi. Voilà, c'est la société est divisée en classe sociale. Et là, les capitalistes nous déclarent la guerre. Ça va être la guerre, il faut qu'on se défende. Et voilà, et c'est ça, il faut qu'on prenne conscience dès maintenant. Oui, on peut partager le travail en toute trousse. Ça, c'est possible, ça, il faut l'imposer. Il faut que les travailleurs en prennent conscience de ça. Oui, on peut avoir le contrôle sur les comptes. Il faut l'imposer. Mais en fait, quand on réfléchit un peu, on contrôle tout dans la société déjà, sans le savoir. Moi, je viens du privé, j'ai travaillé dans les usines, et on contrôlait notre matériel. On contrôlait ce qu'on fabriquait. On contrôlait tout ça. Vous voyez ? Donc déjà, le contrôle, quelque part, on le fait, voilà, sans le savoir. Eh bien, qu'on l'impose. Mais pour ça, il faudra des bagarres, il faudra une conscience de classe. Voilà, parce que justement, les Ruffins, tous ces gens-là, voilà, tous ces politicards-là, ils nous emmènent dans une impasse en disant c'est le souverainisme, voilà, il faut soutenir nos patrons français. Non, je ne suis pas d'accord, la société est divisée en classes sociales, ils ne nous feront pas de cadeaux. Voilà, et ceux qui disent ça, ils nous mentent, ils nous emmènent dans une impasse. C'est pour ça qu'il faut discuter politique, je suis à la CGT, mais le syndicalisme a ses limites, il faut faire de la politique. C'est pour ça que nous, on est dans les entreprises... Justement, et on milite dans les entreprises, justement, pour discuter avec les nôtres, avec nos camarades. Voilà, quel est ton ami, quel est ton ennemi? Et ça, c'est ça qu'on veut, justement, dire à nos collègues, aux gens avec qui on travaille autour de nous. Parce que ça va être la guerre, et comment on pourrait se préparer? Et ça commence par discuter des idées, ça commence par s'organiser. Voilà. Vous voyez qu'on n'est pas... à l'intérieur de l'hôpital, à l'intérieur de l'hôpital ou d'un quelle entreprise, il n'y a que les patrons qui font de la politique. Nous, on interdit aux travailleurs de faire de la politique. Vous voyez ?
Donc, vous avez employé un mot qu'on n'entend plus tellement. Conscience de classe. Hein. Faut revenir à Marx, Engels. Mais c'est vrai que c'est un mot qui échappe à pas mal de gens quand même. Hein. Hein. Conscience de classe, c'est un mot qui est fort, quoi.
Oui,
parce que c'est nous qui... Vous savez, c'est les ouvriers, c'est les techniciens, c'est les ingénieurs qui font tout tourner dans la société. Hein. Même aussi le livreur de livreaux aussi fait partie aussi de cette classe des travailleurs. Et celle qui s'oppose, c'est les capitalistes. Mais c'est eux aujourd'hui qui s'enrichissent sur notre dos. Regardez Elon Musk, j'ai même perdu son combien qu'il a touché, son argent. Même aussi en France, c'est énorme. J'ai plus le chiffre en tête, mais c'est les seuls qui sont enrichis. On voit très bien que cette classe est parasitaire. Quand je vous parlais des bénéfices de Sanofi, un des premiers actionnaires, c'est quand même L'Oréal, avec la famille Bettencourt. C'est eux qui vont s'enrichir. Alors que les gens qu'on a vus travailler pendant au mois de mars, au premier confinement, c'était qui? C'était les éboueurs, c'était les aides-soignants, c'était les infirmières, c'était...
caissières à Auchan, Carrefour.
Les caissières, c'est plein de métiers qu'on... Voilà. Ce sont les travailleurs qui font tout tourner dans la société.
Mais Bettencourt, elle est sur le plan fortune, elle est dans les combien en France? Dans les 5-6 premières, mais...
Oui, elle est dans les premières.
Oui.
Elle est dans les premières.
Dans les 5-6 premiers, oui. Parce que c'est Arnaud et machin.
Bernard Arnaud. Bernard.
Et l'autre, comment que c'est déjà?
LVMH, c'est Louis Vuitton, Lagardère.
Oui, mais il y a Bernard Arnaud. Puis
Arnaud, il y a Lagardère.
Lagardère, mais il y en a un autre, un nom qui revient souvent.
Un Français?
Ah oui, hein, c'est les 6 premières fortunes de France.
Il y a Nuez aussi de Auchan, etc.
Ah, mais ils sont pleins. Mais,
Arnaud et l'autre, comment qu'ils
Ils sont pas beaucoup, mais c'est eux qui détiennent toute la richesse aujourd'hui.
Oui, c'est pas un problème de nationalité. Hein. Les actionnaires, eux, ils profitent du travail des autres. Ils profitent du travail, justement, des travailleurs. On dit que le travail a un coût. Excusez-moi, mais si je me rappelle bien, pendant la pandémie, au début, après l'annonce de Macron du confinement, on a vu la machine à profit qui était confinée à la maison. Donc, voilà. Donc, ça prouve bien que les profits ont baissé. Ça prouve bien que quand les travailleurs ils étaient confinés, la machine à profit était à la maison, donc du coup, les profits baissaient. Donc ça prouve bien que le travail, il ne coûte pas, il rapporte. Contrairement à ce que les politicards, quelle que soit sa couleur de gauche comme de droite comme de gauche, voilà, ils rapportent et donc ils profitent du travail. C'est cela les parasites. Il faut leur prendre. Il faut que les travailleurs prennent conscience que cet argent-là, c'est leur, c'est grâce à leurs muscles, à leur cerveau que ça tourne. Il faut le prendre, cet argent. Et il n'y a que nous qui le disons. Et les autres, ils font croire qu'ils sont en votant correctement, comme la gauche plurielle autrefois. Voilà. Là, c'est vrai, quand on les écoute, il faut un bon gouvernement. Ils ont été maintes fois au gouvernement et à chaque fois, ils ont fait quoi? Non seulement ils ont trahi les travailleurs, ils ont fait pire. Jospin, il n'a jamais autant pris, je me rappelle, pour la gauche PR en 2000, je ne sais plus, hein, c'est vieux. Il n'a jamais autant pris.
2002.
Merci, nous avons un Wikipédia humain ici, sur place.
Non, voilà. Tout dans la tête.
Voilà. Et donc, il n'a jamais autant privatisé que la droite. Voilà. Et donc, ils sont au service de ces capitalistes-là. Et c'est ça que on veut faire comprendre aux travailleurs et aux auditeurs qui nous écoutent.
Comprenez, il y a quand même une trouille parce qu'il y a des capitalistes, disons, ils disent, vous m'emmerdez, moi je prends la boîte et je fais produire ailleurs. C'est un problème ça. Ils disent, j'enlève là et la production va se faire comme ça se fait pour certaines voitures. Hein. Ça se fait au Maroc, ça se fait je ne sais pas où. Ça fout un peu la trouille quand même.
Oui, mais
il y a encore une boîte qui ferme dans le Nord là-haut.
Ce qu'il va falloir, vous savez, c'est exproprier et enfin exproprier les capitalistes.
Oui. Ah bah oui, mais il faut même
exproprier et sans rachat, sans rien. Voilà, parce que c'est nous qui vous ont tourné. Après, vous parlez des usines comme au Maroc, mais là, actuellement, il y a eu une grève sur l'usine de PSA à Kenitra.
Voilà. Maroc.
Où ça
au Maroc.
Ah oui, d'accord. Oui.
Il y a une grève qui touche sur les salaires, parce qu'il touche à peu près 240 euros par mois.
Oui,
alors qu'ils produisent l'A208, si je ne dis pas de bêtises, qui est vendu à peu près 20 000 euros. Eux, ils touchent que 240 euros par mois. Voilà. Donc, ce que nous voyons, c'est que les travailleurs, on n'a pas de frontières. On n'a pas de frontières. Qu'on soit travailleur français, qu'on soit travailleur marocain, qu'on soit travailleur américain, on a les mêmes intérêts et on a en face de nous les mêmes patrons.
Alors, par exemple, aux États-Unis, il y a eu quand même un chamboulement. Qu'est-ce que ça peut...
Biden, par exemple
Non, aux États-Unis, puisque l'ancien président a été battu. Ça peut apporter une amélioration ou non entre la Chine et les États-Unis, d'accord, mais autrement, ça peut...
Vous savez, avant Trump, c'était les démocrates, c'était Obama.
Oui.
La condition des travailleurs aux USA, sous Obama, elle s'était dégradée. Elle s'est dégradée. Plein de travailleurs américains, enfin plein, qui avaient voté Obama, se sont sentis trahis. Par lui. Et ils ont voté Trump après en 2016. Bon, qu'est-ce que ça a changé? Ça s'est encore dégradé. Est-ce qu'on sait, c'est qu'avec Biden, ça sera pareil, ça va encore se dégrader la situation. Parce que c'est comme ici en France, que ce soit la gauche ou la droite, ça change quoi? C'est pire. Enfin, c'est pire. Parce que pourquoi que c'est pire? Parce que ceux qui ont réellement le pouvoir, ce sont les capitalistes. Et vous savez qu'avec les capitalistes au pouvoir, il n'y aura pas de jour meilleur. Ils seront même pires. Ils seront, Ce qu'il faut, c'est que ce qu'il faut, c'est que ce soit nous les travailleurs qui arrachons le pouvoir des mains des capitalistes. Donc, on n'a rien à attendre de Joe Biden.
Oui.
Et vous êtes optimiste hein, pour le pouvoir. Moi, je me souviens, mon père, après la guerre, il en parlait un peu, il y croyait. Hein. Bon, il y a eu des avancées hein, en 1945 en France. Mais on pensait prendre le pouvoir. Et puis quand on a appris ce que c'était que le stalinisme, ça a foutu quand même un coup, comme on disait, à la classe ouvrière française. Hein. On ne s'imaginait pas ça et ça et ça. Et bon, le stalinisme est oublié, mais vous avez espoir qu'un jour, les exploités arrivent à prendre le pouvoir. Comment ça se passera ça,
il me semble que lutte ouvrière est plutôt trotskiste.
Oui.
Oui, ce qu'on considère comme trotskiste.
Oui.
Ah oui, Trotsky qui a été assassiné.
Par un des agents de Staline.
Oui.
Voilà.
Enfin, à l'époque, ça avait été camouflé. Hein, je ne sais pas comment. On a mis du temps. On avait mis du temps à l'apprendre, oui.
Pour répondre à votre question, oui, on est optimiste. Bah, justement, nous, on est trotskistes, effectivement. Mais là, vous mettez le doigt. Il y avait le Parti communiste, quand même, qui était fort. Qui existe encore, enfin qui il y a des militants, il hein, y a des militants comment dire qui militent, qui essayent, etc. Mais quand même le Parti communiste qui est devenu stalinien, il est devenu stalinien nationaliste et en fait il a emmené justement ces militants dans une impasse. Mais vous savez, après la guerre, tout le monde s'est servi du Parti communiste. De Gaulle s'en est servi pour remettre l'économie en route. Hein. Après, Mélenchon s'en est servi. Tout le monde se sert du Parti communiste. Et voilà, c'est ça le fond du problème. Moi, le problème, j'ai rien. Nous, on n'a rien. Justement, quand on vend notre journal sur les marchés, on les voit. C'est voilà. Mais par contre, c'est la direction de la direction politique du Parti communiste qui emmène justement dans une impasse politique. Parce que ce qu'il a à offrir, c'est avoir un bon gouvernement. Et pourtant, dans le passé, il y a eu des ministres au gouvernement sous Mitterrand. Voilà, Mitterrand s'en est servi justement pour arriver au pouvoir. Et ils ont fait quoi de plus? Les ministres communistes, et au contraire, ils ont fait comme tout le monde, voilà, ils ont servi des capitalistes. Et c'est ça, qui est grave. C'est pour ça qu'il y a une démoralisation dans la classe ouvrière, parce que justement les partis qui défendaient ces intérêts-là, ils les ont trahis. Donc du coup, il y a plus de perspectives. Ils sont déboussolés. Certains quand même, ils s'orientent vers l'extrême droite, quand même. Vous vous rendez compte? C'est grave, quand même. Vous voyez, donc, ils sont en partie responsables de la démoralisation des travailleurs. C'est pour ça que nous, on est fiers, oui, on est trotskistes. Eh bien, nous, on fait confiance à notre classe. Nous, on fait confiance à la classe ouvrière. Nous, on est persuadés, tôt ou tard, quoi qu'il arrive, un jour, elle va. Il y aura. Forcément, on ne peut pas rester éternellement comme ça. C'est pas possible. On ne peut pas rester éternellement comme ça. Que plus la crise, ça va s'approfondir, et plus il y aura une petite colère. Et après, nous, notre travail en tant que communistes révolutionnaires, et ben justement, c'est inculquer des idées communistes. On croit que c'est la classe ouvrière qui doit prendre le pouvoir, qui doit diriger, voilà, qui doit défendre ses intérêts de classe sociale, qu'on n'a aucun intérêt à s'allier avec des patrons parce qu'ils sont français. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'on est optimiste, bien sûr. Ouais, et heureusement qu'on l'est.
Duclos, il avait fait près de 26%. Hein. C'est en quelle année, ça?
69.
En
69.
Ouais.
C'est là où il y avait eu deux mecs de droite en face, face à face au deuxième tour.
C'était Power ou Pompidou. Et puis mon père m'a eu raconté les manifs qu'il y avait devant la Bourse du Travail à Lyon. C'était vraiment l'extrême gauche ou la gauche, comme on voulait, qui tenait la rue, là. Hein. Et puis après, ça c'est vraiment...
Oui, bah, c'est clair que le PCF, il faisait 26% à l'époque.
Ouais.
Mais c'est quoi les perspectives qu'ils ont données aux travailleurs? C'était avoir un gouvernement de gauche. Ils ont fait quoi en 81? Ils se sont alliés à Mitterrand. Ils savaient très bien qui était Mitterrand. Ils sont passés... sous Pétain, et puis aussi sont passés comme ministre de la Justice. Voilà, et c'est très bien qui il était. Et ce qu'on a vu, eh ben, c'est qu'arrivé au pouvoir, Mitterrand et les ministres communistes, ben, c'est que, en réalité, c'était la même chose que Giscard. 82 le jet et salaire. Et plein de lois contre les travailleurs.
Les fermetures.
Voilà. Ben, c'est ça le poison qu'ils ont essayé aux gens, c'est qu'il fallait un bon gouvernement. Mais c'est ce qu'il faut encore croire aux gens.
On avait reproché à Jospin de ne pas s'être présenté. C'est en quelle année, ça, Jospin?
Je ne sais pas.
Il aurait pu être candidat, mais il s'était.
Parce qu'il était candidat deux fois.
Hein. Il n'était pas au second tour.
En deuxième, 2002, il était pas au second tour.
C'est avec le Front National.
Oui.
C'était en 2002. Mais c'est pareil, en 97, la gauche arrive au pouvoir.
Oui.
Avec Jospin.
Oui, oui. Les 35 heures.
Avec les 35 heures, mais les 35 heures, c'était pas parce qu'on nous vend des 35 heures. Mais c'est qu'en réalité, c'est 35 heures effectifs. Donc là, vous enlevez les temps de pause. Et puis aussi, avec cette loi-là, ils ont fait passer quelque chose que la droite n'était jamais arrivée à faire passer, c'était l'annulation du temps de travail. Voilà ce qu'ils ont fait passer dans cette loi. Plus les privatisations de Air France, et j'en passe, parce que voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les travailleurs... qui avait voté Jospin, ils ne sont même pas allés voter. Voilà.
Moi, j'avais connu dans mon travail, c'était dans le papier, deux radicaux de gauche. Donc, on est en 78-79. Ils étaient pour la retraite à 60 ans, mais il y avait pour la semaine de 35 heures, je me souviens. Ils étaient en avance même sur le PCF. Hein, ils sortaient les... C'est marrant, c'est cette période. Et puis après, bon, ils sont partis dans la nature, alors ils ne doivent plus être en vie maintenant.
La retraite à 60 ans, c'est Mitterrand.
Hein.
La retraite à 60 ans, ça a été fait à Mitterrand. Il y a des gens qui travaillaient depuis l'âge de 16 ans. Avant, ils étaient obligés d'attendre jusqu'à 65 ans. À partir de 81, ils ont pu avoir leur taux plein et partir à la retraite plus tôt.
On avait 60 ans, là.
Oui, à 60 ans.
Oui. Et
oui, mais après...
On a reculé, là.
On a reculé dans les années 90. Mais...
On a aussi reculé, mais même aussi sur la gauche, on a quand même reculé. Et puis, Mitterrand, je parlais des salaires. Et moi, je me rappelle, c'était mon père, le jour qu'il est parti à la retraite, il m'a montré sa fiche de paye, elle n'a pas bougé depuis 82. Depuis 82, elle n'a pas bougé. Et puis voilà, c'était... Puis, plus aussi, ils ont, alors en guillemets, nationalisé en payant au prix fort les aciéries en Lorraine ou aussi dans le Nord. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi? Ils les ont fermés. C'est eux qui ont fait le sale boulot. Les capitalistes. C'est qu'en réalité, c'est que Mitterrand et son gouvernement, avec les ministres PC, étaient du côté des capitalistes. Et c'est ce qu'ils font croire encore, qu'il suffit d'un bon gouvernement de gauche. Mais le problème, c'est que là, c'est un leurre. C'est un leurre qui donne aux travailleurs.
Est-ce qu'on peut dire, par exemple, je crois que c'est Gramsci qui avait dit, on peut avoir le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté.
En tout cas, honnêtement, je tranche avec vous, j'en sais rien. Mais moi, tout ce que je peux te dire aujourd'hui, et voilà, nous, c'est pas compliqué, vraiment. Nous, on est optimistes, pourquoi? Parce qu'on est des militants communistes révolutionnaires, excusez-moi, je me répète, mais c'est important pour nous. Nous, on pense que notre société est possible. Mais elle se fera pas tant que la classe ouvrière, le monde du travail, prendra pas conscience qu'elle peut changer son sort. Parce que ça fait 40 ans qu'on lui dit que la classe ouvrière, elle est trop conne parce qu'il faut un chef. Excusez-moi, c'est la vérité. Voilà, ça fait 40 ans. Et donc, du coup, on a perdu confiance en nous. Parce que ça fait 40 ans qu'on nous dit qu'on n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Et là, pendant la pandémie, on l'a vu. On l'a vu avec Sanofi Vitry, notamment. Hein, ils ont demandé l'avis à personne, ils ont fabriqué du gel hydroalcoolique. Parce que les capitalistes étaient incapables de faire ça, et ni l'État. Donc ils ont pris leur sort en main. Et c'est ça, nous, c'est un exemple. Et dans les hôpitaux, c'est pareil. C'est les hôpitaux qui ont géré tout ça, et encore aujourd'hui. Donc c'est pour ça que nous, on est convaincus que c'est nous. Et pour prendre les choses en main, il faudra que, justement, qu'on, qu'on discute entre nous, qu'on discute politique. Qui est notre ennemi? Qui sont nos amis? Qu'est-ce qu'on pourrait faire en commun? Parce que tout est fait pour nous diviser. Même dans une même entreprise, on est divisé. On nous met en concurrence les uns les autres. Voilà. Ben oui, c'est ça aussi. Mmh. Diviser pour mieux régner. Mmh. Et donc voilà, c'est ça. Il faut que à qui aujourd'hui on s'adresse. Aujourd'hui, c'est aux travailleurs et à vos auditeurs. Voilà, discutons. Mettons les choses à plat. Voilà. Et c'est, sans nous, il n'y a rien qui fonctionne. Ça, on l'a vu et on le redit. C'est nous. Donc c'est à nous de décider. Pour le moment, c'est nous, on décide de rien. Parce que c'est une minorité de capitalistes qui décident. En fonction de, ils fabriquent des choses en fonction de leurs besoins et de ce qu'ils rapportent. Pas aux besoins de l'humanité. On a vu avec les vaccins, par exemple. Donc voilà. Nous, on est persuadés que tôt ou tard, il y aura des colères. Et c'est évident. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Mais par contre, cette colère-là, comment va s'orienter? Et c'est pour ça que c'est ce qui manque. Nous, on pense qu'il manque un parti communiste révolutionnaire au sein de la classe ouvrière. Ouais. Il manque un parti, justement, pour avoir une boussole politique, pour discuter des idées. Voilà, c'est ça qui nous manque. Et nous, on est persuadés de ça. Et oui, on est optimistes, ouais. Malgré dans toute cette morosité ambiante, eh ben ouais, on est optimistes. Ouais, et on est fiers de nos idées. L'émancipation des travailleurs viendra, ça aura l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Voilà, il faut qu'on enlève nos chaînes. Elles sont qu'à briser, nos chaînes. Hein. Et ça, par contre, il faut en avoir conscience. Et pour ça, il faut qu'il y ait des militants, justement, qui s'orientent dans cette voie-là.
Votre organisation, là, puisqu'on en a parlé pendant un certain temps, les chantiers de l'Atlantique, là, ah oui. qui ont échoué, vous avez des militants qui ont... Expliquez-nous un peu, là. Qu'on a l'impression que c'est tombé comme ça du ciel. Il y a quand même ce qu'on appelle une lune de classe. Lune de classe, on l'emploie plus, ce mot. Vous avez quelques échos, non?
Bien sûr, oui, on a des camarades.
Après, qui est dans votre journal.
Oui, nous avons des camarades... Nous avons des camarades qui travaillent. Et en fait, vous voyez, ce genre de grosses entreprises, c'est comme les Peugeot, les Michelin. C'est une classe, elle est internationale. Il y a de toutes nationalités dans ces entreprises. Il y a des collègues italiens, des camarades, enfin, il y a des travailleurs italiens de toute origine, de tout horizon. Donc c'est pour ça que la classe ouvrière, elle n'a pas de frontières. La classe ouvrière, elle est apatride. Voilà. Elle n'a pas de nationalité. Avant d'être italien, avant d'être algérien, avant d'être français, on est d'abord des travailleurs opprimés. Parce que ce qui se passe au chantier de l'Atlantique, c'est exactement ce qui passe un peu partout. Vous avez, c'est la lutte de classe, ouais, au quotidien.
Et c'est dur à expliquer ça aux gens aussi. Hein.
C'est ça.
Parce que les gens, ils sont déjà pas leur quartier, ils sont pas leur club de foot, ils sont pas leur petit coin... L'internationalisme, comme on dit, c'est pas facile à faire passer dans la tête des gens. Hein.
Quand on discute avec les nôtres, parce que j'aime bien dire ça, en fait, voilà, la société est divisée en deux catégories. Il y a les exploiteurs d'un côté, toute nationalité, toute religion, et les exploités de toute nationalité, de toute religion. Voilà. Donc c'est ça. Nous, c'est pour ça qu'on se prétend, on est internationaliste. Voilà, c'est qu'on est exploité pareil. Les fiches de paye, elles sont pareilles pour tout le monde, qu'on soit français ou pas. À la fin du mois, c'est la crise, c'est les fins de mois difficiles. Voilà, et c'est ça qui nous lie.
Alors, vous dites que c'est difficile, mais c'est que malheureusement, c'est que les partis de gauche ont mis ça aussi dans la tête des gens, que c'est qu'on était français, qu'il faut produire français. Là aussi, la gauche, on l'a dit, comme le PCF, elle a dit qu'il faut prendre en français. C'est qu'ils mettent ce poison dans la tête des gens. Voilà, mais non, c'est que nous, on n'a pas de frontières. Voilà, c'est... Et que la société capitaliste, elle entraîne aussi le monde dans le chaos aussi, avec les guerres du monde, et impose la misère dans les pays pauvres. Les États impérialistes, les grandes puissances comme la France ou les USA imposent leurs lois aussi pour protéger leur trust. Et ces mêmes pays riches, aujourd'hui, rejettent dans la mer les migrants ou la police aussi les traque. L'État refuse les papiers et condamne les migrants à se faire exploiter par des patrons véreux. Mais les migrants sont nos frères de classe. Il faut qu'on le dise, ce sont nos frères de classe. C'est comme disait la copine chez PSA, il y a, y a au moins 40, il y a au moins 40 nationalités, même voire plus. Voilà. Dans les entreprises, nous travaillons avec des travailleurs de différentes origines. Voilà. Et je vous parlais de la grève de Pénitra, vous pouvez voir que c'est qu'on a les mêmes intérêts qu'on soit français, marocain ou allemand. Voilà, on a les mêmes intérêts.
Quelques mots là sur, je vois dans votre journal, l'Union communiste strauss-kiste, quelques éléments de détail. Membre alors donc l'Union communiste strauss-kiste, donc c'est vous. Membre de l'Union communiste internationale. Alors ça regroupe qui? Non, c'est la.
En fait, si vous voulez, nous avons dans des camarades qui sont trotskistes, hein, qui défendent exactement les mêmes la même politique que nous dans d'autres pays. Nous avons des camarades en Inde, n'importe quoi.
Haïti.
Aux USA, en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, en Allemagne, en Turquie.
Ça doit être dur dans certains pays.
Oui, bien sûr. Je vais vous prendre un exemple. Haïti, les copains, les camarades de Haïti, en fait, comme il y a une dictature imposée, c'est tellement la misère qu'il y a des bandes armées en fait, qui font la loi. Et ces bandes armées-là, justement, en fonction de quel côté elles sont, elles sont toujours du côté des riches. Elles sont toujours du côté de ceux qui dirigent. Et donc, justement, cette bande armée-là, non seulement elle matraque la population, hein, puisqu'elle est armée, mais elle matraque aussi toute organisation. Ils empêchent les travailleurs de s'organiser. Voilà. Et donc, tous les jours, les copains IT racontent, quand ils vont diffuser un train ou quoi que ce soit, ben, ils marchent sur des morts, ils marchent sur des cadavres. Et ils militent dans ces conditions-là.
Où ça?
En Haïti.
Oui, oui.
Et pourquoi on en est arrivé là? Parce que Haïti, ça a été le phénomène. Voilà, les impérialistes américains, les impérialistes français, ils ont semé l'Asie, la merde. Enfin, ils ont semé la misère là-bas. Ils ont soutenu toutes les dictatures, Duvalier, etc. Et Duvalier, il avait une milice. Voilà.
Attendez, Haïti, il y a eu un célèbre maréchal, général.
C'était Duvalier.
C'était Duvalier, oui.
Macoute,
oui, bien sûr. C'était Duvalier.
Bah là, c'est dans les années 70, non, oui. 80, je ne sais plus.
C'est pas plus vieux que ça.
Mais je me souviens plus.
Il a fait de la tôle,
oui,
lui.
C'est des dictateurs, donc ils sont soutenus par les impérialistes.
Ah bah bien sûr.
Un voilà. Peu comme Pinochet a été soutenu par les États-Unis.
Mais bien sûr, tout à fait. Et pour Pinochet, Allende, il est quand même responsable. C'est quand même lui qui l'a mis... Oui, effectivement.
Il lui faisait confiance, c'est ça le pire.
Oui,
c'était son homme de confiance.
Et justement, il y a eu ce coup d'État. Oui. Et voilà. Et en fait, si vous voulez, quand Allende est arrivé au pouvoir, bien sûr, il y a la classe ouvrière, elle était... Voilà, comme est arrivé au pouvoir, donc du coup, eux, ce qu'ils ont fait, ils se sont mobilisés pour avoir du boulot, pour augmenter les salaires, etc. Mais si vous voulez...
Pour nationaliser le pétrole.
Et voilà, nationaliser, mais Allende, elle a eu peur de cette classe ouvrière, et elle demandait qu'à être armée. Et quand Pinochet est arrivé, le coup d'État, eh ben, c'est le matraquage. Pourquoi? Parce que Allende, c'est le terme socialiste. C'est toujours pareil, vous voyez, le terme socialiste. Donc du coup, il a laissé Pinochet. Et ben, il y a eu ce qu'il y a eu. C'est une dictature qui s'est imposée.
Un peu comme
le matraquage des militants, etc. Voilà.
Un peu comme Aung San Suu Kyi en Birmanie,
oui.
qui a laissé le pouvoir, une partie du pouvoir à l'armée. Et ben, l'armée vient le reprendre le pouvoir.
Le problème, alors elle, parlons-en, parce que honnêtement. Elle a le prix Nobel de la paix. Elle est quand même à l'origine du massacre de millions de musulmans, les Rohingyas. Hein. Donc, Elle a laissé faire. Et c'est conscient. C'est conscient de ça. Matraquer, diviser la population. Et en fait, le salut, il viendra que quand cette classe ouvrière, aussi bien en Birmanie qu'ailleurs, elle prendra conscience de ses intérêts de classe. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait un parti qui défend ces intérêts-là, un parti communiste révolutionnaire. Et voilà, c'est ça qui nous manque aujourd'hui.
Mais comment se fait-il que, par exemple, quand vous avez un tourneur fraiseur qui devient Premier ministre, il change pas ? Je pense à Béré Gouvois.
Oui, bien sûr. Oui. Pareil, effectivement, il était ouvrier. Hein. Je crois que Marchetti, il était pas ouvrier aussi. Enfin, oui. C'est plus exactement. Il était ouvrier.
Lui, il a carrément été Premier ministre.
Il a été Premier ministre, bien sûr, oui. Il a été Premier ministre. Ben justement, il fait... cette société capitaliste, justement, ils font croire à ils font... Voilà, comment dire. Ce ministre-là, il pensait, comme il est issu du monde du travail, il pensait, en intégrant un gouvernement, qu'il allait changer le sort des travailleurs. Et on a bien vu ce que ça a donné.
Mais parce que vous savez, les vraies décisions ne sont pas prises à l'Assemblée. Hein. Elles ne sont pas prises à Matignon. Elles sont prises dans les conseils d'administration des grandes banques et des grandes entreprises. C'est là où sont pris. C'est quand Michelin annonce son plan de suppression d'emploi, ils vont pas voir le ministre. Voilà, ils le font. Que Sanofi, c'est pareil. C'est quand ils annoncent un plan, c'est pareil. Ils ne vont pas voir le ministre. Il annonce. Parce que, en été, l'ADN du système capitaliste, c'est le profit et l'exploitation. Et tant qu'on ne l'enversera pas, ça sera comme ça. Et les seuls qui pourront renverser ce système, ce sont les travailleurs. C'est la seule classe qui pourra renverser le système capitaliste. Et on n'aura pas le choix. Parce qu'actuellement, les capitalistes nous mettent une guerre. C'est la guerre que nous mènent les capitalistes. Et il faut qu'on y réponde.
Et c'est pas des pseudos, c'est pas des... Regardez, là, les hospices civils de Lyon, à la tête, c'est le maire de Lyon, hein, Grégory Doucet, qui est à la tête des conseils de surveillance des hospices civils, sa mère, vert. D'accord ?
Vert
écologiste, les verts. Et alors, il fait quoi de plus ? Qu'est-ce qu'il fait de plus ? Là, les hospices civils, ils suppriment des postes, 120 postes par an. Est-ce qu'on l'a entendu ? Pendant la pandémie, à part nous allumer des bougies, qu'est-ce qu'il a fait de plus ? D'accord. Là, il y a une petite info quand même. Il y a le centre de vaccination de Gerland, hein, qui la ville de Lyon, la CGT a déposé un préavis de grève.
Ah oui.
Voilà. Parce que ils prennent des risques. Ils demandent des indemnités. Qu'est-ce qu'il fait le maire de Lyon là, hein? Là, il croit qu'on combat quoi? Qu'on combat les patrons avec des aubergines ou avec des géraniums? Mais non. Il est pareil. Ils ont été au pouvoir quand même, les Verts. La gauche plurielle. Il y avait Dominique Voynet. Hein, à part critiquer, à part dire que les gens ils respectent pas l'environnement, à part dire qu'ils font pas le tri des poubelles, et quand Solvay pollue, quand tous ces gros capitalistes polluent, on les entend? On les entend pas, hein, ils s'en pointent toujours à la population. On va enlever le diesel pour les voitures, mais qui, dis-moi, quel travailleur qui peut s'acheter une voiture neuve avec les salaires qu'on a aujourd'hui? Dites-moi qui peut s'acheter une voiture neuve, hein? Développons plutôt les transports en commun. Ça, c'est... Oui, il faut développer les transports en commun. Mais à part dénoncer, matraquer les gens, le 440, il continue à polluer à travers le monde. Et là, les Verts, on les entend pas. Donc, ça changera quoi? Donc, comme dit mon camarade, effectivement, tant qu'on laisse le pouvoir à tous les niveaux de la société, aux mains des actionnaires et aux mains de ceux qui ont les moyens de production, c'est-à-dire les capitalistes, ça ne changera rien. Il n'y a rien qui changera.
Est-ce que la municipalisation de l'eau, puisqu'il était en ce moment c'est Veolia, oui, ça sera municipal, est-ce que ça changera quelque chose?
Ce que j'ai pu comprendre sur les prix, non, du tout. Voilà. Les tarifs seront les mêmes.
Alors c'est pareil pour la nationalisation. Je veux dire, c'est comme tout. C'est comme les autoroutes, c'est comme tout ça. Donc les infrastructures c'est l'État qui s'en charge, et les bénéfices, c'est les autoroutes comme je sais plus les noms, et je crois que c'est comme il s'appelle, j'ai oublié son nom, c'est super connu, Vinci, pardon. Oui. C'est Vinci qui récolte. Voilà. Et c'est comme Décathlon, je ne sais plus, une année dans le Nord, parce qu'ils voulaient comme il était pris d'une autoroute, donc du coup, c'est l'État, c'est la ville, je ne sais plus quelle ville, l'a financé pour un petit accès pour que les gens puissent aller à Décathlon. Voilà, c'est toujours pareil. Donc l'État fait les infrastructures et c'est le public, c'est le privé qui en bénéficie.
Et
c'est toujours
là,
pareil.
Apparemment, il y avait des investissements à faire. Donc là, ça va être la ville qui va les faire.
Qui va les faire.
À la métropole, à la place ou du privé.
Voilà, et c'est comme ces nationalisations dont parlait mon camarade tout à l'heure sous Mitterrand. Hein. Mitterrand les a rachetés. Voilà. Et donc après, comme il a dit, il a fait le sale boulot. Il a fermé des usines, le chômage, il a augmenté. Et c'est ça. Nous, les capitalistes, il faut les exproprier. Et sans rachat. Ni anonymité. C'est ça que nous on propose. Il faut que les travailleurs reprennent ça. Il faut que les travailleurs dans les entreprises, voilà, prennent les moyens de production dans les mains. Après tout, c'est eux qui gèrent, qui fabriquent les richesses dans ce pays. Et hein, c'est une minorité de parasites qui en profite. Il faut qu'ils aient confiance. Il faut qu'on reprenne confiance en nous, parce qu'on n'a pas confiance en nous. Voilà. Et c'est ça que on milite pour ça. Voilà.
Et puis on n'aura pas le choix, parce que là, avec la misère qui s'intensifie et les faillites, nous remarquons aussi la montée de l'extrême droite.
Mmh. Ah ouais, c'est vrai.
Et pas qu'en France, partout dans le monde. Mmh. On parlait des USA tout à l'heure, le Capitole, ce qui s'est passé sur le Capitole, c'est un avertissement de cette montée. Voilà. Trump, il s'est appuyé sur les suprémacistes blancs. Mais en France, vous avez aussi génération identitaire. On les a.
À Lyon, on connaît, oui.
Voilà, à Lyon, on les connaît. Ils sont là. On les a vus aussi dans leur reportage.
C'est ceux qui sont à Saint-Jean, là.
Ils sont à Saint-Jean.
Ils y sont toujours ou...
Oui, je crois, oui. Ils sont. Et puis, on les a vus dans les Alpes, leur reportage, où ils s'en prennent aux migrants. Et puis aussi l'athéisme aussi religieux. On l'a vu avec l'assassinat de Samuel Paty. Mm. Voilà. Ils veulent nous opposer les uns aux autres. Voilà. Et donc nous utiliser pour leur propre pouvoir. Mais au final, l'extrême droite, elle servira la bourgeoisie.
Bien sûr.
Et donc c'est pour ça que nous, les travailleurs, on doit reprendre le chemin des luttes. Voilà. Reprendre cette conscience de classe. Que nous sommes, qu'on soit, ce qu'on a dit longtemps, qu'on soit français, qu'on soit algérien, qu'on soit marocain, on est les mêmes. On est les mêmes et qu'on a le même ennemi.
C'est quand même dur de militer, non ? Ça fait vraiment partie de votre vie, ça. C'est...
Oui, mais hein, on en est plutôt fiers.
Des fois, il n'y a pas tellement rien de famille qui est fracturée ou d'autres événements. C'est...
Moi, la lutte de classe, je l'ai appris en allant à l'usine. Moi, j'ai travaillé à l'usine avant de venir aux hôpitaux. La lutte de classe, je l'ai apprise là. Voilà, et avec, avec plusieurs nationalités différentes. Voilà. Et nous, on en est fiers. Moi je suis fière. Hein. Nous, on en est fiers. Oui, on est là. On milite dans les entreprises. On a un bulletin d'entreprise, hein, notamment tous les 15 jours. Il sort tous les 15 jours. Vous avez l'édito, plus des échos de boîte. Et justement, on essaie de faire de la... C'est ça. Et en fait, ce qui nous manque, c'est la politique. Il faut que les travailleurs fassent de la politique. Voilà. Et c'est ça. Et parce que, en fait, moi, je suis à la CGT. OK, je milite à la CGT. Mais... C'est limité au syndicalisme. C'est ça, il faut faire de la politique. Parce que le syndicalisme, ça limite quoi ? On défend simplement avoir juste un meilleur salaire, avoir de meilleures conditions de travail. Mais c'est bien plus grave que ça, ce qui nous attend. C'est bien plus grave. C'est carrément que c'est ce qui nous attend, c'est la misère, le chômage un peu plus. Parce que justement, tant qu'on laissera la main mise sur cette minorité de parasites... Vous voyez, de l'argent, il y en a quand même. Hein, on pourrait le prendre là. Hein, quand vous voyez que les entreprises, les 10 premières entreprises françaises comme Bernard Arnault, en 6 mois, ils se sont fait la bagatelle de 175 milliards d'euros. C'est deux fois plus les hôpitaux, le budget des hôpitaux. Donc l'argent, il est là. Hein, il est là, il faut qu'on le prenne. Hein, et c'est pour ça qu'il faut faire de la politique, parce qu'au niveau du syndicaliste, ça ne suffit plus. Hein, moi, j'ai pas envie de changer. Moi, j'ai pas envie d'avoir juste un meilleur salaire, de meilleures conditions de travail. Ça suffit pas, ça. Ça suffit pas. C'est pour ça que si on n'aura pas le choix, la crise elle va s'aggraver. Et on n'aura pas le choix. Il faut qu'on, justement qu'on milite justement dans ces conditions. Nous sommes communistes révolutionnaires. Il faut justement que les travailleurs prennent conscience qu'ils peuvent changer leur sort. Voilà. Il ne faut pas qu'on se divise. Parce que tous, ils essaient de nous diviser. Marine Le Pen, tous ces gens, ils essaient de nous diviser, monter les uns contre les autres pour avoir le pouvoir. Marine Le Pen, elle veut manger à la mangeoire, mais elle fera quoi, hein? Elle fera exactement la même politique que les autres. Elle, ce qu'elle veut, c'est aller à la mangeoire. Et en plus, elle dit aux travailleurs à qui veut bien l'entendre, et je sais qu'elle a des voix, hein, et les idées d'extrême sont dans la tête des travailleurs. C'est pour ça qu'on discute avec eux. Parce que c'est pas en allant voter FN qu'on va changer notre sort. Justement. Voilà. Et que d'abord, elle n'est pas idiote, Marine Le Pen. Elle sait comment elle s'adresse aux gens. Hein. Et je vais vous dire, aux dernières élections, hein, elle était endettée, elle est allée demander un prêt aux Qataris. Hein,
oui,
Qataris,
c'est bien, c'est bien très... les musulmans.
Donc,
oui, leur pognon,
voilà. Donc, du coup, c'est bien les musulmans, les Qataris. Donc, ouais. C'est quand ça l'arrange. Hein. Elle préfère fricoter avec les musulmans riches, hein, qu'avec les blancs pauvres. Donc, ça veut dire que on parle bien de classe sociale, là. Mm. On parle bien de la lutte de classe, là. Voilà, donc faut pas que les travailleurs qui sont attirés en pensant qu'en votant Le Pen que leur sort va changer, c'est un leurre, ils se mettent une balle dans le pied. Voilà.
Et vous avez des éléments parce que Le Pen, elle a une, c'est une nièce qu'elle a à Lyon qui a monté
une école,
oui, c'est ça. Marine Le Pen, c'est aussi une avocate, hein, donc oui. Elle a le bagou, elle a la tchatche. Hein.
Une famille qui sont quand même millionnaires.
Oui.
Voilà.
Oui, il y a un pognon. Ça, Pen,
ce sont des politiciens qui veulent aller au pouvoir, mais en divisant les gens, en montant les travailleurs immigrés contre, enfin, les Français, enfin, les travailleurs, en guillemets, français, face aux travailleurs immigrés. Mais tous les gens qui nous divisent, ils sont du côté des patrons.
Moi, j'ai plus l'impression que Marine Le Pen en veut plus du pouvoir que Jean-Marie Le Pen. J'avais toujours l'impression que Jean-Marie Le Pen, ça lui suffisait d'être dans l'opposition et dire n'importe quoi. Et j'ai l'impression qu'elle a vraiment envie d'aller à l'Élysée.
Bah...
Oui, mais c'est que le problème aussi, c'est que les autres politiciens, ils parlent aussi pour elle. Parce que écoutez quand même aussi Mélenchon parler. Il reprend les mêmes, parfois les mêmes termes. Moi, ce qui m'avait choqué, c'était après l'assassinat de Samuel Paty, ou quand même qui s'était quand même pris. J'ai perdu la nationalité.
Au travailleur tchétchène.
Voilà.
Au tchétchène.
Donc voilà, c'est que aujourd'hui, et que les autres politiciens, ils vont aussi sur ce terrain-là, sur le terrain des idées nationalistes et voilà des idées
comme Valls par exemple
mais comme plein voilà et c'est ça qu'il faut qu'on combatte. Mais après vous dites est-ce que si militer c'est dur ou pas, mais je sais pas, mais moi quand j'allume ma télé, c'est quand même révoltant. À chaque fois c'est vous avez là sur quand même sur, je pense que là, l'histoire de la pandémie, elle nous montre l'incapacité du capitalisme quand même à gérer cette société-là. Le manque de masques, le manque aux tests, et puis là, la campagne désastreuse côté de la vaccination. Donc c'est ça. Et puis même quand vous voyez, là j'ai quand même là sur France Télévisions, vous avez un reportage sur l'Irak. Mais comment que les grandes puissances se sont servies au départ de Hussein, de Saddam Hussein, pour vendre des armes, pour le pétrole, si et ça. Et puis quand c'est quand il a voulu aussi avoir lui, Saddam Hussein, les petites miettes du gâteau, ils se sont retournés, les capitalistes, les grandes puissances, lui ont déclaré la guerre. Mais ils ont entraîné le chaos en Irak. Ils ont laissé la population irakienne crever de faim. Et oui, c'est crever de faim. Hein.
Oui.
Et vous voyez, ce reportage, il est vraiment révoltant. Il nous montre ce que c'est que réellement le capitalisme et ces grandes puissances qui sont les États-Unis et la France.
Et bien sûr, et il y a quoi d'avoir la rage pour militer. Regardez tout comme disait mon camarade, la pauvreté a augmenté. Regardez dans les quartiers populaires. Regardez, ils font la queue devant les associations caritatives. caricatif, pardon. Et parlons des jeunes. Des jeunes, ils n'ont pas tous des parents qui peuvent subvenir à leurs besoins. Ils font la queue aussi pour pouvoir manger. Mais c'est quoi cette misère? C'est quoi cette société où il y a une minorité qui s'enrichit et les autres crèvent la dalle? Excusez-moi du terme, mais il faut mettre fin à ça. Faut mettre fin à ça. Il y a de l'argent. Regardez, depuis tout à l'heure, on parle de comptes, on parle d'argent, etc. Et de l'argent, il y en a. C'est pour ça que nous, on est communistes révolutionnaires. Il faut que, justement, que la classe ouvrière, le monde du travail, justement, défende ses intérêts de classe. Oui, on milite sur ce terrain-là. Et nous, on n'a pas honte de nos idées. Parce que nous, nos idées sont internationalistes. Hein, qu'on travaille à Peugeot, au Maroc ou ici, on est attaqué par les mêmes. Qu'on travaille ici, qu'on soit dans le public ou dans le privé, on est attaqué pareil. Donc, unissons nos forces. Il n'y a que comme ça qu'on va... Moi, je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on va y arriver. Hein. De toute façon, je vais vous dire un truc. Là, qui continue, vraiment, qui continue à fermer, à licencier, qui continue avec l'accord de tous ces gouvernements, quelle que soit l'étiquette. Et là, ça va semer. Et là, nous, notre souci, il faut que ça soit victorieuse. Et c'est pour ça qu'on est aussi, qu'on milite, voilà, auprès des nôtres.
Et puis, il faut qu'on mette en... aussi en avant de nos intérêts
de classe.
C'est comme aussi le contrôle des travailleurs sur où va cet argent-là. Parce qu'on parlait au départ du plan de relance, les 100 milliards d'euros, mais on n'a aucun contrôle sur ça. Aucun contrôle sur cet argent-là. Et aussi, on voit tout l'argent du CAC 40, tout l'argent aussi des entreprises américaines, enfin voilà, de toutes ces entreprises-là. Mais où va cet argent-là? Il faut qu'on pose ce contrôle ouvrier, ce contrôle des travailleurs et de la population sur cet argent-là. Et je pense qu'on pourrait s'en servir afin de faire des hôpitaux, des écoles et plein d'autres trucs aussi. Des logements, ce qui manque aussi.
On va conclure notre entretien avec vous. Mon collègue va revenir. Redites-nous, enfin un nom, un prénom que vous voulez, que les gens vous situent. Ah ben voilà.
Alors, il me semble que la prochaine fête de lutte ouvrière, c'est plutôt normalement octobre, septembre-octobre.
C'était
à Saint-Priest, hein.
C'est
à Saint-Priest.
Oui, c'est à Saint-Priest et c'est à peu près le dernier week-end du mois de septembre.
Oui. Ça a eu lieu ou pas
Oui, ça a eu lieu, oui.
Bon, on l'avait annoncé de toute façon.
Oui, bien sûr, on les avait même invités.
Voilà. Et alors, je vois dans votre journal, Arlette Laguiller, donc elle a écrit un bouquin, non?
Oui.
Toujours militante?
Toujours, Arlette.
Voilà. Et qu'est-ce qu'elle devient? Parce qu'avec les années...
Elle milite du coup comme nous.
Oui.
Voilà.
Elle a plus de 70 ans. Hein.
Elle est née en 1940.
Ah bon?
Et oui.
Presque comme moi, alors.
Ben oui.
Presque comme vous, voilà.
Toujours solide, alors.
Toujours solide, toujours fier d'être communiste révolutionnaire.
Vous savez, on vous avait reproché, vous n'avez pas un château, un truc important.
Oui, mais vous savez...
C'est quoi,
ce soir? Alors, il ne leur faut pas beaucoup, parce que c'est quand on a dépassé les 5%, alors c'est à ce moment-là que les médias se sont intéressés à nous.
Pour être remboursé des élections, il faut faire 5%.
Oui, vous avez été remboursé deux fois. Je crois que c'était Lutte ouvrière avait dépassé les 5% en 1995 et en 2001.
Oh, quelle mémoire.
En 2002. Et Arlette Laguiller, et tout d'un coup, a eu un mandat député européen, ce qui n'est pas
la paye d'un ouvrier. Elle a été députée européenne?
Oui.
Oui, oui.
Bah justement, on se sert des élections pour s'adresser à la classe ouvrière. On est des communistes révolutionnaires, donc du coup on se sert des élections pour défendre nos idées de classe sociale. Voilà. Mais par contre, on ne vend pas du rêve. On n'est pas idéaliste. On ne vend pas du rêve. On sait pertinemment que si notre sort changera qu'à travers des mobilisations fortes. Qu'à travers de la lutte de classe, en prenant conscience qu'on peut changer notre sort collectivement. Voilà, qu'on soit travailleur français ou pas, on a les mêmes intérêts de classe à défendre. C'est ça que, voilà, nous on est des communistes révolutionnaires, voilà, et nous, il n'y a aucune solution dans cette société-là. Hein, c'est son ADN, le profit. Voilà, il faut qu'on renverse, ce système doit être renversé. Une société qui n'est pas capable de donner du travail, de donner un boulot, un salaire digne, etc., il faut qu'elle soit renversée. Voilà, il faut qu'elle soit renversée.
Alors, Arlette Laguiller vient d'écrire un livre. Hein.
Oui,
si on peut nous dire quelques mots sur ce bouquin.
C'est un livre qui était déjà sorti en 1974.
Un peu plus près du micro.
Oui, c'était un livre, d'après mes mémoires, hein, je ne sais pas, on va voir si elles sont bonnes ou pas, mes mémoires, je ne sais pas. C'est un livre qui est sorti en 1974, c'était la première, c'était quand même la première femme à se présenter aux élections présidentielles quand même, ça ne se faisait pas à l'époque hein, quand même. Donc voilà, donc nous on n'a pas attendu la parité pour présenter une femme aux élections présidentielles. Et donc en fait elle raconte, en gros, hein, elle raconte comment bah, elle a milité, elle était employée de banque à Crédit Lyonnais. Donc en gros elle raconte la grève qu'elle a menée avec le Crédit Lyonnais. Et elle raconte un peu sa vie de militante. Voilà, pendant la guerre d'Algérie, etc. Elle raconte, c'est très intéressant. Et moi, honnêtement, quand elle est là, elle intervient. Et quand je la vois, franchement, elle me donne du baume au cœur parce qu'elle est toujours là. Elle a trahi personne. Elle s'est toujours adressée à la classe ouvrière. Et elle continue à le faire en défendant les idées communistes révolutionnaires. Voilà. Et nous, on peut être fiers d'avoir ce genre de, comment dire, de militante au sein de notre parti. Quoi. On en est fiers et voilà. Et justement, c'est ce genre. Enfin, nous, quand on l'écoute, elle a traversé tellement des périodes. Et nous, on s'en sert justement pour comment dire, je sais pas comment expliquer, pour. Tout ce qu'elle a vécu, on s'en sert nous aujourd'hui. Voilà, parce que justement c'est des erreurs à faire, à pas faire. Voilà, et on a besoin justement des camarades comme Arlette Laguiller justement.
Elle a travaillé au Crédit Lyonnais.
Oui, hein. Il y a longtemps.
Oui, mais elle a fait sa carrière professionnelle.
Oui, tout à
Alors
fait.
Je vais raconter une anecdote très courte, je ne vais pas trop me détailler. Donc j'étais par mon travail dans une grosse réception au Sofitel à Lyon. Voilà, alors il y a un type qui vient me serrer la main, que je connaissais depuis longue date, marxiste, théoricien, enfin bref. Près de la gauche, il était bien copain avec le gars du Nord, là-haut, un type important.
Alain Boquet ?
Non, ça commence par un D, D, E.
Delbar ?
Delbar, oui.
Delbar, Michel oui. Delbar, oui.
Voilà, bon, enfin, alors je travaillais, alors j'ai dit quel hasard ? Il me dit, bah, c'est mon frère. Ah bon, alors je me réalise, puis je connaissais son frère. Son frère, il était directeur du Crédit Lyonnais à Lyon et venait d'être nommé à Paris. Je me souviens du truc. Ah bon. Alors, puis moi, je travaillais, c'est sûrement un bon coup, tout ça. Non, mais c'est des trucs qui seraient sans mémoire comme ça. Voilà. Enfin, maintenant, il est à la retraite, ce type. Il est revenu dans la région lyonnaise.
Non, mais la différence, c'est qu'Arlette, elle médite toujours. Voilà,
j'ai vu d'ailleurs qu'aux européennes, elle était parmi les dernières de liste, je crois, aux élections européennes en 2019. Oui, donc c'était Nathalie Arthaud qui était tête de liste et Arlette Laguiller était parmi les derniers pour pousser la liste en quelque sorte.
Hein.
Tout comme d'ailleurs Nadia qui est là, donc qui était tête de liste à Villeurbanne l'année dernière, en tout cas au premier tour. Hein, voilà, vous n'avez pas réussi à passer au deuxième. Et donc Tristan Tessier était également tête de liste, mais cette fois-ci dans Lyon 5e, où il avait fort affaire avec les fachos de Saint-Jean.
Il est travailleur aussi, là, Lyon
5e. Oui. Bah, là, c'était quand même plus sympa, quand même, avec les travailleurs.
C'est
vous qui étiez candidat dans le 5e ?
Oui, c'était moi.
Oui. Bah, vous étiez face à Cuchera, alors ?
Hein Cuchera et Georgel.
Il a joué au sport, je ne sais pas ce qu'il fait maintenant. Enfin, il est entraîneur national de gymnastique. Parce qu'une fois, il m'avait dit il faut quand même gagner sa vie. Bon, on n'avait pas parlé de l'indemnité qui touchait à l'époque, parce qu'il était adjoint. Il était adjoint au sport. Et il est dans ton quartier, là. Bon, il s'occupe de la gym.
Bah écoute, Cuchera, oui,
la société
certainement,
gymnastique
oui.
Qui est là-bas.
Mais c'est vrai que je ne m'occupe pas trop de gymnastique, moi, personnellement.
Ouais,
donc,
mais parce que c'est un très bon gymnaste. Et puis, il a fait de la politique. Et puis, il était devenu adjoint au sport. Hein,
maintenant, il est conseiller d'opposition.
Voilà, alors maintenant, il ne l'est plus. Enfin, bref. Enfin, ce n'est pas un gars qui a pris la grosse tête. Hein, c'est pas... Parce qu'il y en a, une fois qu'ils sont élus, hein, ils se prennent pour. Puis un beau jour, quand ils redégringolent...
Eh bien, c'est compliqué pour eux, mais tant pis pour eux.
Maintenant, ils sont élus jusqu'à quand, là, la ville
bah, 2026.
Ah bon
2026.
6 ans 5 ans, quoi.
Enfin, encore 5 ans pour pour nationaliser, enfin pour municipaliser l'eau notamment.
Très bien.
Voilà. Et mettre un téléphérique.
Eh bien, on vous remercie d'être venu. On vous réinvitera. On aura certainement d'autres occasions.
Ne serait-ce qu'en septembre pour parler de la fête de l'outouvrière qui aura lieu évidemment fin septembre. Alors, il me semble que c'était octobre l'année dernière.
C'était toujours à Saint-Priest.
C'est toujours à Saint-Priest. C'est le mosaïque.
Toujours à Saint-Priest.
Ah oui.